à Mademoiselle Finette. Lorsque j'avais votre âge, mon ami, j'étais, ne vous en déplaise, un affreux galopin. Toujours courant, toujours trottant, en quête d'équipées héroïques qui finissaient le plus souvent, de la façon la plus sotte, et d'où je sortais penaud, mais impénitent. Vous m'avez demandé de vous en conter une. Écoutez celle-ci, qu'une rencontre récente m'a remise en mémoire. Le forgeron de Clouzélambre, par Anatole Lebras. C'était aux vacances dernières. Je passais par Clouzélambre. Imaginez une pauvre bourgade de Basse-Bretagne, la plus humble et la plus perdue. De vieilles maisons grises, aux toits galonnés de lichen jaune, quatre ou cinq auberges avec des enseignes d'une orthographe extraordinairement fantaisiste, un enclos plein de tombes, ombragé par des ifs presque millénaires. Une église vétuste, à demi effondrée, ne tenant debout que par miracle. Et, en face de l'église, l'école. Une grande bâtisse fort laide, mais où tout de même, à l'époque, nous nous plaisions bien. J'ai fréquenté d'autres institutions plus tard, qui, plus somptueuses, ne sont pas demeurées aussi chères à mon souvenir. J'étais arrivé à Clouzélambre sur le coup des 8 heures du matin. Des écoliers, pareils à celui que je fus, entraient en classe, alignés sur une longue file, les mains derrière le dos, le sac de toile en bandoulière, tête nue et chantant. Le fracas de leurs sabots sur les dalles retentissait en moi délicieusement, et parmi leurs voix claires, montant à l'unisson, j'écoutais presque si je ne distinguerais pas la mienne. L'homme porte en lui une infinie puissance d'illusion. Il avait suffi qu'autour de moi se reconstruisît le décor familier de mon enfance pour que je me crusse redevenu enfant. Un moissonneur descendait la rue, en corps de chemise, sa faucille à la saignée au bras. Je l'interpellai. « L'instituteur, c'est bien Monsieur Loader, n'est-ce pas ?» Ainsi se nommait mon ancien maître. Le paysan me dévisagea un peu surpris, puis au bout d'un instant. « Si je ne me trompe, nous avons annonné ensemble sur les mêmes bancs. Tu dois être un tel. Moi, je suis le Bourdonnec. » Je lui sautai au cou, et nous nous embrassâmes longuement. « C'est singulier, » fit-il, « qu'après tant d'années, on n'ait pas plus de peine à se reconnaître. Je me suis souvent demandé, quand on parlait de toi chez nous, quel air tu pouvais bien avoir à présent. N'est-il pas étrange que tu sois exactement celui que je me figurais ?» Je confessai en toute sincérité que pour ma part, j'eusse difficilement mis, de prime abord sur son visage robuste et hâlé, le nom du petit Jouan de Bourbonnec, qui fut le premier et le plus aimé de mes compagnons d'études. Il eut une de ces réparties profondes dont nos ruraux de Bretagne sont coutumiers. Nous, vois-tu, la vie des champs nous rend tous pareils. Mais, poursuivit-il, je n'ai pas répondu à ta question. Ne t'enquérais-tu pas de Monsieur Loader? Je vais te conduire à lui. Nous n'avons, hélas, que l'échaillée du cimetière à franchir. Nous fîmes quelques pas dans une étroite allée sablée de coquillages de mer. À droite, à gauche, des tertres verdoyants surmontés de croix peintes, avec deux lignes d'inscriptions racontant des existences obscures et d'humbles trépas. Tout au bout, une tombe plus importante, presque monumentale, taillée dans un bloc de granit rose. « C'est ici, » fit Jean. Et quand nous eûmes donné à la mémoire du vieux maître un souvenir attendri, tu vois que ses élèves lui sont restés fidèles. Les plus pauvres y sont allés de leurs 4 sous, afin qu'il eût une sépulture convenable. Il faut, disait-il, que sa pierre soit aussi belle que celle d'un curé. Le fait est que nous lui devions bien ça, te rappelles-tu? Nous avions pied à travers le cimetière pour sortir par l'autre issue, et sur nos lèvres, tout en marchant, abondaient les évocations du passé. Le paisible enclos des morts, baigné par la pure lumière d'août, avait le charme émouvant d'un très vieux jardin. Des bourdonnements d'abeilles emplissaient les calices des fleurs funèbres, et l'on entendait au loin, dans les campagnes blondes de soleil, le ronflement d'orgue de machines à battre. De temps à autre, Jouan, me saisissant par le bras, me désignait une croix sur un tertre. Lis ce nom. Et c'était quelqu'un de nos camarades d'antan, couché dans le grand repos, avant d'avoir accompli la moitié de sa tâche. Je sentais la mélancolie me gagner, et pourtant, j'eus toutes les peines du monde à retenir un éclat de rire, lorsqu'à propos d'un des noms inscrits là, au lugubre registre d'absence, Jouant le Bourdonnec me dit à brûle-pourpoint. Il était l'histoire du symbole, tu sais, car tu ne l'as pas oublié, l'histoire du symbole.
Certainement. Je ne l'avais pas oublié.
Nous voilà de la recoudre ensemble, pièce à pièce, dans ses moindres détails.
Cela se passait aux âges fabuleux, où, sous prétexte d'apprendre au petit breton le français, dont il ne possédait pas un traître mot, on leur interdisait, même aux récréations, de se servir entre eux de la seule langue dans laquelle ils fussent en état de s'exprimer.
Autant les condamner au mutisme. Mais l'enfant a des ingéniosités de sauvage. Nous tournâmes la loi, quant à nous, en donnant à notre vocabulaire celtique, au moyen de désinences appropriées, une couleur vaguement française, d'où il résulta, comme bien vous pensez, le plus abracadabrant des jargons. Nous disions par exemple « J'ai toré mon bottes », traduisait « J'ai cassé mon sabot ». J'ai encore retenu ce verbe effarant, « méniater ». Cela signifiait se battre à coups de pierre, tant de choses en un seul mot. Le reste était à l'avenant. Et voilà cependant le mirifique idiome que j'ai parlé de ma sixième à ma dixième année. C'est alors que, pour nous réduire, on eut recours au fameux symbole.
Symbole de quoi?
Je ne l'ai jamais su. Il y a comme cela des inventions pédagogiques qu'enveloppent un terrifiant mystère. Celle-ci nous fut présentée sous les espèces et apparences d'une rondelle de fer blanc percée en son milieu d'un trou que traversait une ficelle. Vous eussiez dit un jouet plutôt cocasse, mais destiné à quelle besogne sinistre? Jugez plutôt. Au premier terme suspect que vous laissiez échapper, le surveillant vous accrochait à la veste cette médaille d'infamie. À vous ensuite de guetter l'occasion de vous en défaire en la glissant à quelqu'un de vos condisciples, astucieusement pris par vous en flagrant délit d'altération frauduleuse de la langue française. On gagnait à ce jeu de devenir assez vite un excellent apprenti mouchard. Peut-être est-il permis de penser que ce n'est pas précisément le but idéal de l'éducation. Le dernier détenteur du symbole, à la fin de la journée scolaire, restait pour sa punition, une heure après le départ des autres, à ranger les livres, à épousseter les bancs, à faire la toilette de la salle de classe. Et donc, cette humiliation m'advint. J'en éprouvai un tel froissement que je résolus de me venger. La corvée accomplie, au lieu de déposer le symbole sur la chaire, ainsi qu'il était prescrit, je profitai de l'absence du maître pour emporter la rondelle maudite et sitôt à l'air libre. Mon premier soin fut d'assembler autour de moi tous les garnements du bourg.
« Ça, leur dis-je à peu près, il faut en finir avec cet instrument d'oppression. Qui le est, me suive, et faisons-lui les funérailles qu'il mérite. »
Ils s'écrièrent d'une seule voix.
« C'est cela, oui, qu'on l'enterre, qu'on l'enterre !»
L'instant d'après, nous étions en route pour le Rhin. Le Bourdonnec et moi, nous marchions en tête de la bande. Les autres se pressaient sur nos talons, hurlant, vociférant. Nous devions avoir, quelque peu, l'aspect d'un défilé d'apaches sur le sentier de la guerre. Les gens et Bobby se mettaient aux portes pour nous regarder passer. Le Rhin, situé à un quart de lieue environ du bourg de Plouzélambre, est, comme son nom l'indique, une éminence broussailleuse dont les anciennes carrières abandonnées ont profondément entaillé les flancs. Où le cadavre de notre ennemi pouvait-il être le mieux enfoui qu'au pied de cette colline déserte, dans une de ces excavations obstruées par des ronces, hantées seulement des chauves-souris et des crapauds? Il fut procédé à son inhumation selon les rites les plus solennels. En guise de monument, nous amoncelâmes au-dessus de lui un tas de pierres analogues à un cairn, qui, chez nos ancêtres, marquait la sépulture des grands chefs barbares. Puis, sur une couverture de cahiers en carton, fixée dans une branche d'épines, l'un de nous, celui-là même dont une croix de bois noir venait de me rappeler le nom, écrivit au crayon ces deux vers qu'un symboliste d'aujourd'hui, soit dit sans jeu de mots, ne désavouerait peut-être pas. Sigille le symbole, on pourra parler breton à l'école. Ce sont, je suppose, les seules rimes qu'il ait jamais assemblées. Que Dieu les lui pardonne. Pas n'est besoin, je pense, de vous apprendre que le lendemain, le symbole était ressuscité, sinon le même, du moins son frère. Si j'en crois mon ami le Bourdonnec, nous fûmes pour cette escapade fouettés de verges. Tout en devisant de la sorte avec mon ami d'enfance, je m'étais laissé entraîner par lui vers sa métairie du Golo. Il tenait à me présenter sa femme.
« Mona Dizès, voyons,
La fille du meunier de Nizilzi, une petite futée qui faisait sa première communion l'année où nous faisions notre troisième. » Il ajoutait d'un ton philosophe. Ah, elle a un tantinet épaissi depuis lors. La petite futée s'était en effet changée en une opulente matrone, mais qui me reçut de la manière la plus accorte, avec une bonne grâce paysanne, à laquelle il n'était guère possible de rien refuser. Je dînai donc au Golo à midi, j'y soupai le soir, et il fut entendu, malgré mes protestations d'ailleurs assez faibles, que j'y passerai la nuit. « Nous causerons dans l'air au pied des meules de blé sous les étoiles, » disait Jouan. Et Mona Lisa s'insistait. « Nos lits valent bien sous l'auberge, la couette est de fines balles d'avoine vannées au vent de mer, et les draps sont en toile de Bretagne parfumée de fleurs de lavande. Vous y dormirez, croyez-moi, à point fermé. Et comme la chambre est au levant, le soleil béni vous bonjourera gaiement au réveil. Restez !» Je restai. L'après-midi fut consacré à parcourir le domaine. Nous ne rentrâmes que pour le repas du soir, que nous prîmes à la table commune, dans la grande cuisine, parmi les servantes, les bouviers et les pâtres. Il fut exquis, ce repas, assaisonné de propos rustiques, de menues histoires locales que ces braves gens contaient à mots brefs, sans lever le nez de leurs assiettes, avec des rires silencieux. C'était le charme de la vie patriarcale retrouvée. Mona présidait, debout, et distribuait les parts en disant à chacun, selon l'usage antique, « Grand bien vous fasse !» À quoi l'on répondait, « Dieu vous le rende !» Le souper fini, Jean le Bourdonnec récita le Deo Gratias, et nous nous acheminâmes vers l'air, où les Gervantas érigeaient dans le couchant de pourpre leurs hautes architectures coniques. Jean me convia à m'asseoir auprès de lui sur le timon d'une charrette. Il faisait une de ces belles et calmes soirées d'été breton, où les choses semblent se recueillir dans une religieuse attente. Une nuit violette montait peu à peu, les premières constellations s'allumaient, un reste de clarté diurne agonisait mystérieusement. Nous fumâmes quelques minutes en silence. « Ça, me demanda Jouan tout d'un coup, sais-tu à qui je pense ?»« D'ivoire. À quelqu'un dont j'ai oublié tantôt de te montrer la tombe, et à qui nous devons cependant, l'un et l'autre, les plus merveilleuses, peut-être de nos anciennes joies d'écolier. Amidio, mon cher. Amidio Arzour. » Vous ne sauriez imaginer l'effet que produisirent sur moi ces quatre syllabes. Les lointains assombris de l'horizon du Golo s'embrasèrent subitement à mes yeux d'une lueur resplendissante, d'une rouge lueur de forge, et les étoiles m'apparurent comme des étincelles jaillies d'une enclume immense. « Ah oui, m'écriai-je, Milio Arzur, le terrible batteur de fer !» Je revis l'homme. De taille moyenne, les jambes courtes et comme arquées sous le poids du torse, les épaules quasi trop vastes, presque pas de cou, et des bras de géant, des bras velus, avec des biceps en boule qui montaient et qui descendaient. La tête était rude, hirsute, encadrée d'une barbe en collier, aussi raide que poil de brosse, des joues rêches, excoriées comme une vieille basane, était incrustée, damasquinée de limaille de fer, qu'on eût prise pour le pointillé bleuâtre de quelque tatouage ancien. Tout cela ne constituait pas précisément un ensemble très séduisant. Mais ce qui achevait de donner à la physionomie un aspect farouche et formidable, c'était la cavité vide de l'orbite gauche où la prunelle avait été arrachée par un éclat incandescent et que recouvrait mal un lambeau de paupières ombragé d'une touffe de sourcils en haut vent. C'était, comme vous le voyez, un véritable cyclope à l'œil unique. Cet œil, en revanche, était d'une douceur qui rassurait, qui attirait, qui exerçait sur vous au premier regard une fascination de bonté. Il était gris, du gris des étangs sous la lune, avec des transparences d'eau limpide, derrière lesquelles brûlait l'âme du vieux Milio. Hospitalière et chaude, comme sa forge. Cette forge, occupée à l'extrémité du bourg, sur la route de Saint-Michel-en-Grève, les ruines d'un antique sanctuaire de Saint-Éphame. Détruit, prétendu-t-on, vers 93, par un bataillon de vandales étampois. La statue mutilée du grand Anachorète celtique ornait encore un des angles du bâtiment. De temps à autre, des pèlerins venaient s'agenouiller devant elle, car cette image passait pour avoir conservé ses vertus spéciales. Elle portait chance aux jeunes conscrits, soit avant, soit après le tirage au sort, et guérissait les maris jaloux. C'était du reste, avec les murs, tout ce qui demeurait de l'édifice primitif. L'hôtel avait été transformé en foyer. Le feu y couvait tout le jour et même une partie de la nuit. Milio était un travailleur acharné, dur à la besogne, battant et forgeant depuis l'angélus du matin jusqu'à l'heure où tintait Marie-Jeanne, la cloche tardive, dite la cloche des polissons. Il ferrait les chevaux, réparait les coutres de charrues, cerclait les roues des tombereaux et des charabancs, martelait les faux pour les foins et les faucilles pour les blés, aiguisait les tranchelards des ménagères, rétamait les bassins de cuivre et, au besoin, fabriquait les symboles. Lucien détestait de ce chef si nous n'avions eu toute autre espèce d'autre motif de l'aimer à plein cœur. Pour sa serviabilité d'abord, c'était l'homme du monde le plus obligeant. En dépit de ses dehors redoutables, le clou d'une toupie venait-il à sauter? Vite, on courait chez Milio Alzur. Milio, qu'est-ce, mon doux Milio? Il bougonnait un peu, commençait par vous envoyer au diable, vous et votre toupie, et tout de même s'interrompait débonnairement dans son travail pour vous la raccommoder de main de maître. Combien est-ce, Milio? Il vous prenait le bout de l'oreille entre ses gros doigts, faisait mine de serrer légèrement et disait « Me voilà payé, mais n'y reviens plus. » Nous y revenions sans cesse. Il y en avait même, et j'étais du nombre, qui, la classe terminée, s'installait chez lui à demeure, jusqu'à la nuit déjà close. L'on y était si bien dans le pêle-mêle des ferrailles, appuyé au mur ou traînant à terre dans le bruit rythmé des marteaux et l'éparpillement féerique des scories en feu. Joignez que Milio avait une voix superbe, une voix de métal sonore, comme il disait, en qui le timbre mordant de l'acier se mariait aux puissantes vibrations du bronze. De l'aube au crépuscule, il chantait. Son répertoire était inépuisable, sonnes d'amour, berceuses enfantines, guerziou tragiques et cantilènes sacrées. Il vous promenait en quelques heures à travers le chant si fécond de l'inspiration populaire bretonne. Je crois même qu'il improvisait parfois, et que l'esprit des temps bardiques vivait en lui. C'était en tout cas plaisir de l'entendre, et nous nous en privions le moins possible. Puis, à l'instar des lèches grecs, la forge était un lieu de rendez-vous, de causerie, de racontard de toute nature. Les mendiants, les colporteurs, la race vagabonde des chemineurs de pays, y entraient au passage, pour allumer leurs pipes, pour réchauffer leurs doigts transis, et le plus souvent, s'y attardaient à débiter des nouvelles, assis sur des billots de bois, ou quelque enclume hors d'usage. On apprenait là les crimes, les incendies, les accidents, les baptêmes, les mariages, les décès. Tous les faits divers de la contrée à plusieurs lieux à la ronde. J'ai vu des types singuliers, des figures inoubliables. Une entre autres, celle d'un ancien forçat qui s'était laissé condamner à la place de son frère. On ignorait son nom. On l'appelait communément Algaléour, le galérien. Il était maigre, chétif, ratatiné, avec un air navré de bête errante, de pauvre chien battu. Il portait une coiffure étrange, une manière de sac en bure jadis bleu dont le fond lui tombait derrière la nuque, sur le dos. Son bonnet de bagne, paraît-il. Milio lui témoignait une grande compassion. Il le retenait parfois à coucher, et lorsqu'il repartait au petit jour, il bourrait son lit sac de pain frais et de lard fumé. « Savez-vous que c'est un maître artisan ?» nous disait-il. « Seulement, il ne peut plus travailler. Il a la bougeotte. Il est incapable de rester en place. Il fuit devant sa honte, la honte imméritée qui est sur lui. » Et il faut qu'il marche sans repos ni trêve, comme l'a fait le boudet d'Eo. Plaignez-le, et tirez-lui vos bérets. Le samedi était le jour de la semaine où la forge présentait le spectacle le plus animé. Les cultivateurs de Plouz et Lambre s'y relayaient par groupes. Ils arrivaient, montés sur leurs chevaux de labour, les jambes ballantes du même côté, le chapeau rejeté en arrière, le brûle-gueule aux dents, et c'était des cris, des appels, des remontrances aux bêtes pour faire tenir tranquilles les étalons qui hennissaient et se dressaient debout contre la muraille. Les juments ruaient, reniflaient avec force, les hommes juraient, tempêtaient, claquaient du fouet, et tout à coup, éclataient en gros rires, quand Milio leur jetait une facétie ou les bousculait d'une bourrade amicale. Il fallait le voir se démener, le rude forgeron, brandissant au bout d'une pince de fer empourprée. Il connaissait par cœur les noms de tous les chevaux du pays. Il savait l'art de les amadouer d'un mot. Une odeur âcre de cornes brûlées se répandait dans l'air. Nous aimions ce parfum sauvage, et nous le respirions avec délice. Ah ! Les soirs du samedi, La cloche de 4 heures n'avait pas fini de sonner que déjà, nos sabots aux mains, pour courir plus vite, nous galopions dans la direction de la forge. Ces jours-là, Milio, débordé, ne dédaignait pas notre aide. C'était à qui s'offrirait le premier pour tirer sur le soufflet. Tirer sur le soufflet, c'est-à-dire sur la chaîne qu'il faisait mouvoir. Quelle fonction envier. On se la disputait, généralement à coups de poing. Des générations de gamins se sont suspendus à cette chaîne de fer, toute noire de suie, et terminée par une cheville de bois dur que des milliers de mains avaient poli comme un vieil ivoire. J'apportais quant à moi à ce métier de souffleur la même gravité que si j'eusse accompli un sacerdoce. Je goûtais une satisfaction toujours nouvelle à sentir au-dessus de mon front le branle du levier, à écouter le halètement sourd de l'appareil, à regarder fuser la flamme multicolore dans les crépitements du charbon. « Hardi, Hardi !» criait Mio. Et je m'évertuais, les muscles raidis, la face inondée de sueur. Ce fut assez du nom de Milio Arzur prononcé par Jouan pour me faire revivre comme dans un éclair toute la magie de mon passé d'enfant. Je demandai. Qu'il y a longtemps qu'il est mort, le maréchal Borgne, le forgeron de Saint-Eflamme? On célébrera la messe de son anniversaire à la Noël prochaine, me répondit le Bourdonnec. Il secoua la cendre de sa pipe, baissa la tête et demeura un moment sans parler. « Oui, il est mort, et pas comme tout le monde, reprit-il. Ce qu'il y a de pire, c'est que j'ai été très involontairement la cause de son trépas. Allons donc, comment cela ? Je veux te le dire, ça me soulagera. L'histoire n'est pas ordinaire, tu la jugeras peut-être invraisemblable, mais elle est bien de chez nous, et le dénouement, hélas, n'en est que trop réel. Voici tel quel ce qu'il me raconta. L'hiver avait été rigoureux, surtout vers la fin de décembre. Aux approches de Noël, il avait fait un temps de chien, ou plutôt un temps de loup. Le sol, depuis 2 semaines, était couvert d'un pied de neige sur laquelle il y avait plus du verglas. Un mercredi, veille de la nativité, Jouan le Bourdonnec se rendit chez Milio Arzur. « Vieux parrain, lui dit-il, il y a près d'un mois que j'ai promis une charge de rondin au notaire de Plufur. J'attendais pour les charroyer que les routes fussent redevenues praticables, mais il paraît qu'on meurt de froid chez le tabellion. Il m'envoie prévenir par son clerc qu'il faut que la commande soit livrée pour vendredi. Alors, Milio, ça va être à toi de taper ferme et dur, car j'ai besoin pour mon harnais de 3 chevaux d'une belle douzaine de fer à glace. » Le forgeron le dévisagea d'un air furieux.
« Ah ça, par la barbe du roi Arzur, mon ancêtre, vous êtes donc tous donné le mot dans votre satané quartier du Golo ?»«
Doudou, Milio, de mon âme, explique-toi s'il te plaît sans te fâcher, car je n'entends goutte à ce que tu dis. »«
Je dis que ton voisin Mérère sort d'ici, et qu'avant lui, il en est venu 4 autres, également de tes parages, tous géniants, tous suppliants. Une douzaine de fer à glace, mon bon Milio, pour l'amour de Dieu !» J'aurais les 100 bras du géant Gouard, ma parole, qu'on ne me traiterait pas différemment. Je me suis engagé à servir les 2 premiers arrivés. Les autres, eh bien, j'aurais conseillé la forge du diable, qui, elle, ne chôme jamais, et dont les feux brûlent nuit et jour. Vas-y toi-même, avec tes camarades, mon garçon, si ça te chante.
Jouan le Bourdonnec ne se démonta pas si vite. Il s'assit sur l'escabeau de chêne luisant près du foyer, et repartit d'un ton tranquille. Tu ne feras pas cet affront, Milio. Tu as travaillé pour mon père, et aussi, je crois, pour mon grand-père. Tu ne voudras point que j'attrape peut-être ma mort, à m'en aller à 7 heures, à pied, dans la neige, acheter des fers tout faits et mal faits, chez le maréchal de la rue des Juifs à Lannion.
Non, mais tu accepterais que j'attrape la mienne, à forger pour toi et tes compagnons toute la nuit.
Oh, pas toute la nuit, pour quelques douzaines de fers. Ce n'est pas, je pense, Milio Arzur, ancien forgeron breveté de Noncy-la-Garde, qui parle de la sorte.
Eh bien, si ce maladroit de Tinévé, le maréchal Lannionnais, savait ça, il s'en ferait des gorges chaudes.
Et c'est pour le coup qu'il irait crier sur les toits que tu vieillis. Te voilà encore avec ta langue de vipère, Jouan.
Oh,
il n'a jamais tenu ce propos devant moi, si grande qu'il ait la bouche. J'ai la pomme assez large pour la lui fermer. Et tu ne ferais que ton devoir. Les Bourdonnecs peuvent, mieux que personne, attester qui je suis et ce que je vaux. Mon ami avait gagné sa cause. L'instant d'après, Milio le suivait à l'auberge d'en face, trinquait avec lui, debout devant le comptoir, et le Verbu disait en s'essuyant les lèvres dans sa toison de bravelu, « Les fers seront prêts pour demain matin. » L'énorme soufflet de cuir ronfla furieusement ce soir-là, dans la forge de Saint-Éphane. Sur les 11 heures, Brun, le petit apprenti, demanda tout luisant de sueur. « Sauf votre respect, maître, y a-t-il encore beaucoup d'ouvrages ?»«
Ça diminue, » répondit Milio. « Tes membres réclament un peu d'huile de repos, mon garçonnet. »
C'est à cause de la messe de minuit. Si cela ne vous faisait rien, j'aimerais tant y aller.
La messe de minuit ? » répétant en écho le forgeron.
Faut-il qu'il m'ait fait perdre la tête, sous ses couerts. J'avais, par ma foi, oublié que c'était la veille de Noël. Dire que le Christ va naître, et que je suis là, comme un mécréant à battre le fer.
Ah, si seulement je n'avais pas donné ma parole à cet enjôleur de Bourbonnec. Mais il est trop tard. Je suis lié par ma promesse. Advienne donc que pourra. Toi, petit, tu es libre. Va à la messe, mon bonhomme, va.
Et ne manque pas de réciter un pater à mon attention, quand tu feras tes dévotions devant la crèche. En un tour de main, l'apprenti eut jeté bas son tablier en peau de mouton et débarbouillé sa figure dans l'eau tiédie du baquet où l'on mettait à tremper les fers rouges. Resté seul, Milo Arzur se sentit tout triste et comme son courage. Les cloches carillonnaient allègrement dans le silence glacé de la nuit. À leur appel, des pas retentirent. Un claquement de sabots cloutés sonna clair sur le chemin durci. Le front collé à la vitre de sa fenêtre, le forgeron vit défiler des groupes de gens, hommes et femmes, garçons et fillettes, qui tous se dirigeaient du même côté, vers l'église. Ils marchaient vite, en balançant des fanaux à forme de tourelle, dont la menue flamme jaune vacillait à la bise. On distinguait des voix, des rires. D'aucuns, en passant, devant la forge, criaient « Oui, Emilio, tu ne viens pas ?» D'autres disaient « Bon Noël au forgeron de Saint-Éphane !» Il les regardait disparaître jusqu'au dernier, par l'échalier du cimetière, derrière le rideau noir des ifs, et il se murmurait à lui-même. « Je devrais les suivre, ma place est parmi eux, là-bas, près de la balustrade du chœur. » Le carillon des cloches, dont les sons se précipitaient avant de s'éteindre, semblait le presser d'accourir. « Dépêche-toi, Milio, dépêche-toi, bim-bom, bim-bom-bom. » Pour ne l'entendre plus, ce bim-bom, dont l'insistance le troublait comme un reproche, et aussi, pour changer le cours de ses idées qui tournaient au noir, il réempoigna sa masse et se mit à battre le fer. Il ne s'arrêtait de battre que pour tirer sur le soufflet, et de tirer sur le soufflet que pour battre. Il battait, battait, battait. Mais, chose bizarre, son cou, si assuré d'ordinaire, déliait à tout moment sur l'enclume, et le fer chaud, le beau fer souple couleur de feu, au lieu de se pétrir docilement sous le marteau, ou bien se dérober, ou bien se casser. Milion conçut d'abord de la colère, puis une sorte d'angoisse. Des pressentiments sinistres voltaient autour de lui. Pour essayer de se redonner du cœur, il entonna une sonne alerte et comme ensoleillée, la sonne des filles de Plouzélambre dont il était l'auteur. Mais il n'avait pas achevé le premier couplet qu'il s'interrompit. On venait de heurter la porte. « Voilà quelqu'un qui arrive à point, » pensa-t-il. « La solitude est une marâtre. Je commençais à avoir peur de je ne sais quoi. Sans compter qu'un peu de renfort ne sera pas de trop. » Ce fut d'une voix joyeuse qu'il cria « Entrez !» Il s'attendait à voir paraître la figure connue d'une de ses pratiques habituelles ou encore d'un de ses nomades que, dans la saison des grands froids, il avait coutume d'hospitaliser. Justement, l'ancien forçat ne s'était pas montré depuis plusieurs mois. « Gageons que c'est lui !» s'exclama Milio. Mais non, ce n'était pas Argaléor. L'homme qui franchit le seuil était de haute taille, le buste court, les jambes d'une longueur démesurée. Son corps efflanqué flottait dans les vêtements trop larges, ses os craquaient en se mouvant, comme prêts de se disjoindre et de s'effondrer en tas.
« Quel peut-être être ce paroissien ?» se demanda le forgeron interloqué.
L'homme souleva son feutre, découvrant à plein un visage d'une maigreur peu commune, aux yeux caves, au nez camard, qu'on eût dit rongé par une lèpre.
aux mèches rares et grisonnantes, souillées de neige et de boue. Il prononça.
« Je vous ai vu au travail, malgré l'heure tardive, et quoique ce soit la nuit de Noël. Alors, j'ai frappé. »
« C'est bien, » répondit Milio. « Avancez au feu, si vous désirez vous chauffer, mais fermez la porte de grâce, car il gèle terriblement. »
En parlant ainsi, il n'eût su dire si c'était l'entrée de l'air du dehors ou celle de ce singulier visiteur qui lui avait brusquement donné si froid. Ce qui est sûr, c'est qu'il se sentait transi.
L'autre répliqua d'un ton calme.
« Je ne me chauffe jamais. »«
Qu'y a-t-il donc pour votre service ?» fit Milio, agacé.
« Expliquez-vous incontinent, s'il vous plaît. Je n'ai pas de temps à perdre. »«
L'ogre, c'est comme moi. »
Ce disant, l'homme tendit à Milio Arzu une grande faux de tout point identique à celle dont on se sert en pays breton pour couper les foins.
« Voici, » poursuivit-il avec un flegme grave, « il s'agirait de me rajuster cette faux. Comme vous pouvez le constater, la lame branle un peu dans le manche. »
Le forgeron eut un regard de pitié pour son interlocuteur, persuadé qu'il avait affaire à un fou, et en Bretagne, les fous sont sacrés.
« Bah, songea-t-il, moyen le plus rapide de me débarrasser de ce malheureux, c'est encore de réparer son instrument. Un rivet et j'en serai quitte. »
Il prit la faux et la coucha sur l'enclume.
« Ayez la bonté de souffler, dit-il à l'homme, qui obéit sur le champ. » Puis histoire de causer.
« Tout de même une drôle d'idée que vous avez de vous promener avec un tel outil un 24 décembre, quand il y a sur la terre un pied de neige.
Chacun son métier, maître Milio. »
« Certes, mais je ne savais pas que le métier de faucheur fût un métier d'hiver. »«
C'est pendant la période de l'année où j'ai le plus à faire. »«
Je ne voudrais pas vous désobliger, mais un autre que moi vous prendrait pour un mauvais plaisant. »« Vous fauchez peut-être les bruyères des landes ou les roseaux des marais. »« Ça ne doit pas être très lucratif. »
Milio se déridait maintenant, presque amusé.
L'autre, tout en soufflant, gardait son attitude énigmatique, son air impassible et figé, et il répondit.
« Il y a faucheur et faucheur, il faut croire. Moi, je fauche en tout temps. »«
Et dans quel pays, sauf votre respect ?»«
Dans tous les pays où on me donne de l'ouvrage. »« Et ne comptez pas en trouver à Plouzélambre, mon brave. Si vous avez envie qu'on vous occupe, vous ferez bien de repasser dans 6 mois. »«
Je suis cependant demandé chez Gonéry l'Esveur. »
Le forgeron eut un haut le corps.
« Chez Gonéry l'Esveur ?»
Du Poulru, vous vous moquez.
Je ne me moque jamais.
Vous êtes prié d'aller faucher au Poulru chez Gonéry d'Esveur, insista Milio, qui n'en revenait pas de l'accent impérieux que l'inconnu avait.
Comme je vous l'ai dit, et Gonéry vous attend.
Il faut que je sois à sa porte avant le chant du coq.
C'est donc qu'il n'a plus sa tête à lui. Au reste, voilà déjà quelques jours que, paraît-il, il n'est pas bien.
« Il est possible, » fit l'homme du même ton laconique.
Milio avait fini d'en mancher solidement la faux. Quand il fut pour la remettre à son propriétaire, il eut peine à la soulever, tant elle était devenue inexplicablement lourde dans l'intervalle.
« Hein ? Quoi ? » balbutia-t-il. « Qu'est-ce que ça signifie ?»
L'inconnu, lui, la souleva aussi légèrement qu'il l'eût fait d'une plume, et posant la main sur l'épaule du forgeron.
« Service pour service, Milio Arzu. Il est écrit « Malheur à celui qui reste sourd à la voix de l'ange et qui ne se met pas en route pour la crèche sainte avec les mages et les bergers. Tu enfreins le précepte, tu dois expier. Parce que tu t'es montré charitable à mon égard, je veux en user de même envers toi. Je ne repasserai par ici qu'après avoir terminé ma tournée du Poulru. Ainsi, tu auras le temps de te confesser et te repentir. À bientôt. »
Le lugubre personnage était déjà dehors quand le pauvre Milio comprit enfin qu'il venait de travailler pour l'encou. À la place où s'était posée la main du faucheur d'homme, son épaule était de glace et un frisson tragique, un frisson mortel, se propageait dans tout son corps. L'apprenti, qui rentrait de la messe, ne put retenir un cri de stupeur voyant la face livide de son maître. « Retourne à l'église, lui dit Milio, et prie le recteur d'accourir, cela presse. » Un quart d'heure plus tard, les gens du bourg, en train de réveillonner derrière leur porte bien close, ouïrent tinter dans la rue la clochette de l'extrême onction. Et ils se demandèrent, attristés, au milieu de leur gai repas de Noël,
Quel est donc chrétien qui meurt à l'instant où Jésus vient de naître? S'il y avait quelqu'un à qui ils fussent loin de penser, c'était assurément le forgeron de Saint-Éphane. Emilio raconta son histoire au prêtre. Il fit son acte de contrition, reçut les derniers sacrements et ferma les yeux. Des voisines s'assemblèrent pour veiller. Vers le jour, comme une aube triste commençait à blêmir au dehors, sur les vastes étendues neigeuses, il entr'ouvrit les paupières. Il fit un signe à Brun, l'apprenti, et murmura à l'oreille. « Tu diras à Jouan le Bourdonnec que sur les 12 fers, je n'ai pu en parachever que 10. Il voudra bien m'excuser. Quand il aura su, par le recteur, qu'il n'y a point de ma faute. » Dans les fermes alentours, les coqs chantèrent. À partir de ce moment, il ne bougea plus. Une des femmes s'étant penchée pour lui nouer un chapelet dans les doigts, s'aperçut qu'ils étaient rigides. On n'avait cependant pas vu son âme s'en aller. La fête de Noël, à Plouzélambre, fut annoncée ce matin-là par un double glas, et le fossoyeur eut à creuser deux tombes, l'une pour Millau Arzur, l'autre pour Gonéry Lesveur. « J'ai tenu à payer la croix de fer qui abrite le vieux forgeron dans la paix du repos final, » me dit en terminant Jouan le Bourbonnec. « J'aurais dû t'y conduire, j'y récite un De Profondis tous les dimanches. » Et il reprit après un silence. « C'est égal, vois-tu, son souvenir me hante parfois, comme un remords. » La forge elle-même a sans doute disparu, informai-je. Oui. Et à ce propos, j'oubliais. Le sein qui l'ornait, je l'ai recueilli. Il est précisément dans cette chambre de la tourelle où tu vas coucher. Je dormis en effet sous l'égide des flammes. Prince d'Hibernie et ermite armoricain. Mais il n'avait plus sa majesté d'autrefois. Je lui trouvais la mine affligée d'un sein en exil. L'auréole de flammes, dont l'enveloppait jadis la forge, lui manquait. Et plus encore, j'imagine, la chanson quotidienne, la chanson toujours dispose du féal forgeron. Le forgeron de Plouzélambre, par Anatole Le Braz, extrait des récits de passants.